Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nainar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le manuel, ou Enchéridion, condense les principes de la philosophie stoïcienne enseignée par Épictète au début de notre ère. Épictète ne rédigea pas lui-même cet ouvrage arien, son disciple, en fixa les préceptes sous la forme de courts chapitres destinés à un usage quotidien. Cette édition Flammarion, établie et traduite par Olivier Digeranian, présente ce texte comme un guide de philosophie pratique. Son objectif ne consiste pas à expliquer un système théorique dans tous ses détails, mais à former le jugement face aux pertes, aux conflits, aux désirs et aux revers. Le livre repose sur une séparation décisive entre ce qui relève de notre pouvoir et ce qui lui échappe. La liberté, selon Épictète, ne dépend donc ni de la richesse, ni du statut, ni de la santé, mais de la manière dont une personne évalue les événements et oriente sa volonté. Par sa concision exigeante, le manuel propose une discipline morale plutôt qu'un simple réconfort. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, distinguer le pouvoir du jugement et le cours extérieur des choses. Le premier principe du manuel établit une frontière entre les réalités qui dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas de nous. Nos jugements, nos impulsions, nos désirs et nos refus relèvent de notre usage de la raison. En revanche, le corps, les biens, la réputation, les fonctions publiques et les actions des autres demeurent exposées aux circonstances. Cette distinction ne signifie pas que la santé ou la reconnaissance soient sans valeur pratique. Elle signifie que les traiter comme des possessions entièrement maîtrisables rend inévitablement dépendant de facteurs instables. Pour Épictète, le trouble ne provient pas directement des événements, mais du jugement qui les déclare intolérables, humiliants ou indispensables au bonheur. Le travail moral porte ainsi sur les représentations, il faut examiner une impression avant de lui donner son assentiment. Une perte matérielle peut être pénible sans devenir une destruction de la personne. Une critique peut toucher la réputation sans déterminer la valeur morale de celui qui la reçoit. Cette doctrine ne prône donc pas la passivité. Elle redirige les efforts vers la seule sphère où une responsabilité complète est possible, la qualité du choix, de la réponse et de la conduite. Le manuel fournit par là un critère concret pour hiérarchiser les inquiétudes et éviter de confondre action raisonnable avec illusion de contrôle. Deuxièmement, transformer le désir afin de ne pas livrer sa liberté aux circonstances. Épictète relie étroitement la souffrance morale au fonctionnement du désir. Désirer avec absolu ce qui peut être perdu, refusé ou retiré revient à placer sa tranquillité sous la dépendance du hasard et des décisions étrangères. Le manuel ne demande pas une insensibilité mécanique, mais une rééducation de la visée du désir. Le lecteur doit apprendre à vouloir avant tout ce qui dépend de sa volonté droite, agir avec discernement, tenir ses engagements, accepter lucidement les limites de sa condition. Cette orientation modifie aussi le rapport aux ambitions ordinaires. Rechercher une charge, une approbation ou un avantage peut être compatible avec la raison, à condition de ne pas y attacher son bien suprême. Si le résultat échoue, la personne conserve la possibilité de juger et agir correctement. La formule stoïcienne selon laquelle il faut vouloir les événements tels qu'ils arrivent est souvent réduite à une résignation. Dans le manuel, elle vise plutôt la suppression du conflit intérieur contre ce qui est déjà advenu. On peut intervenir lorsque une action est possible, sans exiger que le monde confirme ses préférences. La maîtrise du désir prépare ainsi une autonomie qui ne dépend pas de garanties extérieures. Elle exige cependant une pratique continue, car les habitudes sociales poussent spontanément à mesurer la réussite par la possession, le prestige ou la sécurité. Troisièmement, faire de chaque épreuve un exercice de discernement moral, le manuel adopte un ton bref et impératif parce que sa philosophie se veut exercer, non seulement comprise. Les situations ordinaires deviennent des occasions de vérifier la fermeté du jugement retard, maladie, insulte, deuil. Échec ou conflit révèle la tendance à réclamer de la réalité ce qu'elle ne promet pas. Épictète recommande de nommer les choses avec précision afin de réduire le pouvoir des réactions immédiates. Derrière un objet aimé se trouve un objet périssable. Derrière une offense se trouve le jugement de quelqu'un, non une atteinte automatique à notre caractère. Cette sobriété de langage aide à interrompre le mouvement qui conduit de une impression à une conclusion précipitée. Le lecteur est invité à marquer une pause, à se demander si la situation touche vraiment son pouvoir moral, puis à répondre conformément à ce diagnostic. Cette méthode distingue le stoïcisme d'une consolation abstraite, elle engage une attention répétée aux pensées, aux paroles et aux gestes. La difficulté du texte vient de son niveau élevé de rigueur. Certaines maximes peuvent paraître abruptes, notamment face aux souffrances affectives ou sociales. Leur intérêt analytique réside néanmoins dans la question qu'elles imposent, quelle part de mon désarroi provient du fait lui-même, et quelle part provient d'une attente que je peux réviser. Le manuel fait ainsi de la vie quotidienne un terrain de formation éthique. Quatrièmement, vivre selon la nature par les rôles, les relations et le devoir, la liberté intérieure défendue par Épictète ne conduit pas au retrait des relations humaines. Le manuel rappelle que chacun occupe des rôles concrets enfant, parent, frère, voisin, citoyen ou membre d'une communauté. Ces positions ne définissent pas une identité fixe, mais elles indiquent des devoirs de conduite équité, patience, loyauté, retenue dans la parole et attention aux autres. Vivre selon la nature ne veut donc pas dire suivre toutes ses envies. Dans le sens stoïcien, la nature humaine comprend la raison et la sociabilité. Une action juste doit pouvoir s'accorder avec ces deux dimensions. Cette perspective évite de confondre indépendance et égoïsme. Une personne peut ne pas contrôler le comportement de ses proches tout en restant responsable de sa propre manière de les traiter. Elle peut servir la cité sans faire de la reconnaissance publique la condition de son équilibre. Le livre insiste aussi sur la nécessité de ne pas usurper les rôles qui ne nous reviennent pas. Chercher à diriger les choix des autres ou à disposer du destin comme d'un bien personnel produit frustration et injustice. La discipline stoïcienne impose ainsi une double exigence: accepter les limites de son pouvoir et accomplir avec soin les tâches qui relèvent effectivement de sa place. La vertu se mesure moins à une réussite visible qu'à la cohérence entre jugement rationnel, relation juste et action appropriée. En dernier lieu, un manuel de poche issu d'un enseignement oral et conçu pour la répétition, le titre grec Enchéridion désigne un objet que l'on garde à portée de main, parfois comparé à un petit poignard. Cette image éclaire la forme du livre, le manuel ne remplace pas les développements plus amples des entretiens, également transmis par Arien, mais rassemble des règles mémorisables pour les moments où le jugement vacille. Sa composition en chapitres très courts favorise la relecture, la sélection de maximes et la mise à l'épreuve dans des circonstances précises. Cette économie littéraire donne au texte une force particulière, mais demande aussi une lecture attentive au contexte de la doctrine stoïcienne. Isolées, certaines formulations peuvent sembler recommander le détachement de toute affection ou ignorer les contraintes matérielles. L'ensemble vise plutôt une indépendance à l'égard de ce qui ne peut être garanti, tout en maintenant la responsabilité de agir avec justice. La transmission indirecte du texte importe également Épictète, fut un maître qui enseignait oralement et Arien a organisé ses préceptes pour en faire un instrument éthique. Le lecteur moderne rencontre donc moins un traité systématique qu'un aide-mémoire de formation morale. Dans cette édition, les éléments de contextualisation, le lexique et les rapprochements avec des enjeux contemporains peuvent faciliter une approche qui ne transforme pas le stoïcisme en recette de bien-être. La brièveté du manuel et sa singularité, elle oblige à convertir chaque principe en examen personnel plutôt qu'à consommer une argumentation longue. En conclusion, le manuel convient au lecteur qui cherche une entrée directe dans le stoïcisme, aux étudiants en philosophie comme aux personnes désireuses de clarifier leur rapport aux événements incontrôlables. Son principal bénéfice pratique est de fournir un cadre de jugement avant de se laisser absorber par une contrariété. Il invite à déterminer ce qui relève d'une action possible, ce qui relève d'une interprétation révisable et ce qui doit être accepté comme une limite. Sur le plan intellectuel, il donne accès à une éthique antique dont les notions de liberté, de désir, de devoir et de nature restent structurantes. Il ne convient pas à qui attend un discours psychologique nuancé ou une méthode graduelle accompagnée de nombreux exemples. Sa langue normative et sa radicalité exigent une lecture lente, parfois critique, surtout lorsque le texte aborde la perte ou les liens affectifs. Comparé aux ouvrages modernes de développement personnel, le manuel se distingue par son ambition morale, il ne promet ni maîtrise totale de la vie, ni optimisation des émotions, mais une transformation du rapport au bien, au mal et à la responsabilité. Comparé au grand traité philosophique, il se distingue au contraire par sa densité opérationnelle. Cette édition offre en outre des outils de contexte utiles pour situer les préceptes. Le livre demeure remarquable parce que sa brièveté ne simplifie pas son exigence, il propose une discipline de la liberté intérieure à reprendre et à confronter aux situations réelles. Si vous souhaitez soutenir Épictète, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!